Bonjour, Marco, compte à rebours. Encore une émission, compte à rebours, j'y crois pas, ça fait des années que ça dure. Des siècles peut-être même, on peut dire, puisque bon, on a passé du 20e au 21e siècle presque avec cette émission, ou une pareille. Donc, qu'est-ce que c'est cette émission, me direz-vous? Des histoires, des contes, c'est pour ça qu'on en a encore pour longtemps, parce que depuis la nuit des temps, les hommes racontent des histoires. Ils n'en ont jamais fini. Maintenant, on les filme aussi, les histoires. Enfin bref, il y en a beaucoup, et quand je dis depuis la nuit des temps, ben oui, puisque la semaine dernière, j'ai fait une émission spéciale Chuang Tzu. Chuang Tzu quand même, donc un auteur chinois qui, disons, aurait vécu vers le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc vraiment quelque chose de très lointain. Et comme il n'y a eu aucune plainte suite à cette émission, parce que Chuang Tzu, c'est quand même spécial, faut dire, il y en a qui des fois trouvent ça bizarre, il y en a même qui trouvent ça scandaleux. Oui, parce que Chuang Tzu, et c'est pour ça que je fais encore une émission sur lui, avec des extraits de ses textes et quelques histoires, Chuang Tzu nous bouscule, nous interpelle, nous provoque et ça fait du bien. Lorsqu'ils s'ébattent en liberté dans les plaines, broutent l'herbe, boivent l'eau. Contents, ils se frottent le cou l'un contre l'autre. Fâchés, ils se retournent et se décochent des ruades. C'est là toute leur malice. Mais quand on leur eut appliqué le collier et un frontal en croissant de lune au chanfrein, devant la gêne du caparaçon et du harnachement, ils apprirent à se dérober, à broncher, à ronger leurs freins, à prendre le mordant. En un mot, Polo est coupable d'avoir rendu les chevaux rusés et vicieux. À l'époque de Haut-Sui, dans les tout premiers âges, les hommes restaient chez eux sans savoir ce qu'ils faisaient. Marchaient sans savoir où ils allaient. Ils baffraient, ils esclaffaient, se tapaient sur le ventre et s'ébaudissaient. C'était là ce à quoi se limitaient les capacités de l'homme primitif. Mais ensuite, parurent les sages. Ils rompirent les hommes à la pratique des rites et de la musique sous prétexte de modeler leur corps. Ils leur inculquèrent le sens de la bonté et du devoir afin d'adoucir leurs mœurs. Alors, le peuple se mit à priser l'intelligence. Il se tourna vers le profit et lutta pour la conquête des biens matériels, sans que l'on pût mettre un frein à ses passions mauvaises. Tel est le crime des saints. Un apprenti brigand demanda au brigand Tzu : est-ce que les brigands ont de la vertu ? Mais bien sûr, répondit le brigand Tzu. Comment pourraient-ils exercer leur activité s'ils n'en avaient pas ? Devinez la cache, voilà leur clairvoyance. Y pénétrer le premier, voilà leur bravoure. Être le dernier à s'en retirer, voilà leur sens du devoir. Savoir si le coup est réalisable, voilà leur sagacité. Distribuer le butin équitablement, voilà leur charité. Sans ces cinq vertus au complet, il est exclu d'espérer devenir un grand brigand. Tous les mots viennent de ce que l'humanité cherche à connaître, ce qu'elle ne pourra jamais connaître, au lieu de se pencher sur ce qu'elle connaît déjà. Elle ne sait que critiquer ce qu'elle tient unanimement pour mauvais, mais non ce qu'elle considère universellement comme bon. La lumière du soleil et de la lune en est obscurcie. L'influx des montagnes et des rivières perturbées. Le cours des saisons troublées, des insectes qui rampent, aux oiseaux qui volent, il n'est espèce vivante dont la nature n'en soit pervertie. Quel désordre ne provoque pas dans l'univers le culte de la science? Et il en est ainsi depuis l'avènement des trois premières dynasties. Nous avons abandonné le ressort naturel de notre germe vital pour nous tourner vers une prolixité bavarde et laborieuse. Nous avons perdu la sérénité du non-agir pour nous délecter des vaticinations de la pensée. Et ces vaticinations ont mis le monde à feu et à sang. Compris, Chuang Tzu est un esprit critique, parce que non seulement il critique ce que tout le monde effectivement critique, la puissance de l'argent, etc., l'hypocrisie, etc., mais il critique aussi ce que tout le monde tient pour estimable. Il critique la sainteté, il critique la connaissance, c'est inacceptable. Il critique même le progrès. Et tout cela est illustré par des histoires. Tse Kong, l'un des disciples favoris du maître, alors qu'il revenait d'une mission au Tsu, vit sur le bord de la route menant au Tsin un vieil homme arroser son potager au moyen d'une jarre qu'il allait remplir au puits dans lequel il descendait par une galerie. C'était beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Tse Kong s'arrêta et lui demanda s'il n'aimerait pas utiliser une machine qui lui permettrait d'arroser 100 plates-bandes en une journée, donnant beaucoup de résultats avec peu d'efforts. L'homme leva les yeux sur l'air intrus et lâcha un « dit toujours ». Tse Kong expliqua alors qu'il suffisait de faire un trou dans une perche lestée à l'arrière dont on se servirait comme d'un levier. On tire et l'eau coule à flot. C'est ce qu'on appelle une bascule, conclut Tse Kong. L'homme changea de contenance, manifesta de la colère, émit un ricanement, puis déclara « j'ai entendu dire ceci par mon maître. Les machines créent les activités mécaniques. Les activités mécaniques mécanisent le cœur. Qui a un cœur mécanique dans la poitrine perd sa candeur native. Qui a perdu sa candeur native ne saurait connaître la paix de l'âme. Le Tao ne vient pas se loger chez qui ignore la paix de l'âme. Je suis parfaitement au courant des avantages de cet instrument, mais vois-tu, j'aurais honte de m'en servir. Le duc Juan lisait un livre. Le charron, qui travaillait à sa roue en bas des degrés, monta le trouver. « Que lisez-vous ? Les paroles des saints. Sont-ils vivants ? Ils sont morts. Alors, ce que vous lisez, ce sont leurs déjections. Comment ? Un charron vient discuter de ce que lit son seigneur ?» éructa le duc. « Si tu parviens à justifier ton assertion, je te fais grâce. Sinon, je te coupe la tête. » Quand on façonne une roue, trop doux, il y a du jeu. Trop fort, les pièces s'imbriquent mal. Ni trop doux, ni trop fort, il faut l'avoir dans les doigts. L'esprit se contente d'obéir. Il y a dans mon activité quelque chose qui ne peut s'exprimer par des mots. Aussi n'ai-je pu le faire comprendre à mon fils. J'ai 70 ans bien sonnés, et je suis encore là, à faire des roues en dépit de mon grand âge. Ce que les anciens n'ont pu transmettre est bien mort, et les livres que vous lisez ne sont que leur déjection. Lumière demanda à Néant. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas ? Comme sa question n'obtint pas de réponse, Lumière examina attentivement la forme de Néant. Ténèbres insondables, vide incommensurable. Elle le considéra un jour entier. Le regardant, elle ne le vit pas. Prêtant l'oreille, elle ne l'entendit pas. Le saisissant, elle ne l'étreignit pas. Alors elle s'exclama. « Sublime ! Qui peut donc atteindre à telle évanescence ? Moi aussi, je contiens du non-être, mais pas comme lui, qui ne contient rien, même pas le non-être. Pour être ainsi néant, de quelle façon s'y est-il pris ?» La raison de la nasse est dans le poisson. Mais pour prendre le poisson, il faut oublier la nasse. La raison du collet est dans le lapin. Mais pour prendre le lapin, il faut oublier le collet. La raison des mots est dans le sens. Mais pour capter le sens, il faut oublier les mots. Quand rencontrerai-je enfin quelqu'un qui a oublié les mots pour parler avec lui ? Le roi Wen de Chao s'était pris de passion pour l'escrime. Il entretenait à sa cour plus de 3000 bretteurs et jour et nuit les faisait se mesurer les uns avec les autres en sa présence. Chaque année, il en restait une bonne centaine sur le carreau. Il y avait déjà 3 ans que s'était déclarée sa passion sans que le prince manifestât la moindre lassitude. Le pays était affaibli. Les autres seigneurs complotaient contre lui. Le prince héritier s'en désolait. Un jour, il s'ouvrit de ses préoccupations à son entourage. « Je suis prêt à offrir 1000 pièces d'or à qui sera capable de raisonner mon père pour qu'il mette un terme à ses tournois. » Maître Chuang lui fut recommandé comme seul capable de mener à bien cette entreprise. Le prince héritier dépêcha donc un émissaire lui faire don de 1000 pièces d'or. Maître Chuang refuse alors. mais suivit l'envoyé, qui l'introduisit auprès du dauphin. Maître Chuang lui déclara « Qu'avez-vous à me demander pour m'offrir une telle somme ?»« J'ai eu vent de votre sagesse et de votre sagacité, » répondit le dauphin. « Aussi me suis-je permis de vous offrir cette somme afin de pourvoir aux besoins de votre suite. Mais puisque vous refusez mon offre, comment oserais-je m'ouvrir de mes projets ?»« J'ai cru comprendre que vous souhaiteriez avoir recours à mes services pour que je mette un terme à la manie du roi concernant l'escrime. » Si en tâchant de le persuader, je le contrarie et vous déçois par la même occasion, je subirai à coup sûr la peine capitale et je n'aurai que faire de votre or. Si je parviens à le convaincre, réalisant votre vœu, je me demande ce que le Chao pourra me refuser. Le prince héritier en convainc. Il avertit Maître Chuang. Mon père ne veut plus avoir affaire qu'à des escrimeurs. C'est parfait! « Je me débrouille fort bien, vous savez, » dit Maître Chuang. « Oui, mais le genre d'escrimeur que mon père aime a le cheveu en bataille et coiffé d'un bonnet rabattu sur le front, porte une veste écourtée par derrière, roule des yeux terribles et sait à peine parler. Si vous vous présentez à lui en robe de lettré, cela risque de l'indisposer et de faire échouer la tentative. Bien. Alors, il suffit de me confectionner un habit d'escrimeur. » 3 jours plus tard, déguisé en bretteur, le maître Chuang se présenta au dauphin qui se rendit à sa compagnie auprès du roi son père. Il les attendait une épée nue à la main. Maître Chuang franchit le seuil de la salle sans hâter le pas et ne s'inclina pas devant le roi. Celui-ci s'étonna. « Qu'avez-vous à me dire pour vous faire introduire par mon fils ?»« J'ai entendu dire que vous étiez féru d'escrime. C'est en tant qu'escrimeur que je viens vous trouver. » « Ah ? Et quelles sont vos capacités ?»« Je me targue d'étendre raide un homme tous les 10 pas, en sorte que je puis marcher 1000 lieues sans être arrêté. » Le roi, émerveillé, s'exclama « Mais alors vous devez être sans rival dans l'Empire !»« Mon art consiste en ceci, » expliqua Maître Chuang. « Je montre mon vide, je trouve l'ouverture, offrant un avantage, et tirant le dernier, je touche en premier. Voulez-vous une démonstration ?» Le roi pria le nouvel escrimeur de se reposer dans ses appartements en attendant qu'il organise un tournoi. À l'issue de 7 jours de joutes ininterrompues qui laissèrent plus de 60 hommes sur le carreau, il sélectionna 5 de ses meilleurs champions. Le 8e jour, le souverain convoqua Chuang Tse et le mit en présence de ses escrimeurs. Puis il lui demanda de choisir son arme, l'épée courte ou l'épée longue. Ce à quoi Maître Chuang répondit « Toute épée m'est bonne. Néanmoins, j'ai 3 armes de prédilection. Vous me direz celles que je dois employer, mais il faut peut-être que je vous explique ce qu'elles sont. Oui, quelles sont-elles en effet ? Il y a d'abord l'épée du Fils du Ciel, puis l'épée du Prince Feu de la Terre et enfin l'épée de l'Homme du Commun. Ah bon ? Et à quoi ressemble l'épée du Fils du Ciel ? L'épée du Fils du Ciel a pour pointe les fortifications avancées du Yen au nord, pour tranchant le Tsi à l'est, pour plat le Chao à l'ouest, pour garde le Song et le Cheu au sud, pour pommeau le Han et le Wei. Elle a pour écrin les 4 barbares et pour fourreau les 4 saisons. Elle est cerclée d'un côté par la mer de Pohai et de l'autre par les monts Changchan. Les 5 éléments la régulent. L'alternance du soleil et de la lune l'harmonise. Le yin et le yang l'anime. Elle se meut au gré des saisons. Il n'y a rien qui résiste devant quand on pousse les stocks. Rien dessus quand on la lève. Rien dessous quand on la baisse. Rien sur les côtés quand on la fait tournoyer. En haut, elle perce la nue. En bas, elle fend les veines de la terre. Qui la brandit, régente les princes feux de la terre et soumet l'empire à sa loi. « Et l'épée du prince Feu de la Terre ?» demanda le roi, l'esprit en déroute. « L'épée du prince Feu de la Terre a pour pointe les preux. Pour tranchant, les serviteurs intègres. Pour dos, les sages. Pour garde, les hommes loyaux. Pour pommeau, les braves. Poussée d'estoc, elle ne rencontre rien devant. Levée au-dessus, abaissée, rien au-dessous. Tournoyant, rien sur les côtés. » En haut, elle prend modèle sur le mouvement circulaire du ciel pour se conformer à la marche des 3 luminaires. En bas, elle s'inspire du carré formé par la terre pour suivre le cycle des 4 saisons. Au centre, elle se prévaut de la volonté du peuple pour pacifier les provinces d'une seigneurie. qui use de cette épée produit l'effet du tonnerre et obtient la soumission à l'intérieur des frontières et l'obéissance de tous aux ordres du souverain. Telle est l'épée du prince feudataire. Et l'épée de l'homme du commun ? Ah ! L'épée de l'homme du commun ! Celui qui se sert de cette épée a le cheveu en bataille et coiffé d'un bonnet rabattu sur le front, porte une veste écourtée par derrière, roule des yeux terribles et sait à peine parler. Il s'étripe avec ses congénères devant des spectateurs. Cette épée coupe les coups en haut, transperce tripes et boyaux en bas. Telle est l'épée de l'homme de peu. Celui qui en use ne diffère en rien d'un coq de combat. Un jour ou l'autre, il succombera au cours d'une joute. Ces spadassins ne sont d'aucun profit pour un état. Ô grand roi, vous qui occupez la position de fils du ciel, n'est-ce pas vous rabaissé que d'aimer l'épée de l'homme du commun ? Sur ce, le roi prit maître Chuang par la main et monta avec lui dans la salle d'apparat où le grand intendant avait préparé un festin. Le roi, encore sous le coup de l'émotion, fit trois fois le tour de la salle. Maître Chuang lui dit « Calmez-vous et asseyez-vous, Majesté. Cette affaire d'épée est finie. Oubliez. » Le roi ne mit pas le nez dehors durant trois mois. Les escrimeurs, mortifiés, se tranchèrent la gorge sur place. Voilà, c'était Conte à rebours. J'espère que vous avez apprécié les déjections, hein, puisqu'il faut reprendre son vocabulaire, les déjections de Maître Chuang, autrement dit Chuang Tzu. C'était Conte à rebours, Marco. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.